Bienvenue dans Spam.
C'est un programme qui permet de savoir, un peu tout.
Internet ! Je sais pas.
Ce qui est formidable sur Internet, c'est qu'on peut s'y raconter des choses super intéressantes.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonne année chers auditeurs et bienvenue dans Spam, votre émission internet et numérique sur Radio Pulsar au 95.9 et sur radio-pulsar.org. Peut-être que pour Noël, vous faites partie des chanceux qui ont reçu la dernière montre connectée à la mode ou encore le dernier bracelet intelligent pour sportifs aguerris. Et bien pour cette reprise, on va parler de vos cadeaux, car cette émission est dédiée aux objets connectés. L'équipe est là, comme d'habitude, avec Théo pour l'actu.
Bonne année !
Florian pour sa mise à jour hebdomadaire.
Oui, c'est le bordel ce soir en plus.
Ouais, ouais, tu nous as mis
je,
un peu
je fais le bazar.
Denis nous parlera de jeux vidéo.
Je suis pas un cadeau, bonsoir.
Hugo est aussi présent pour assurer la réalisation de l'émission.
Salut !
Et nous avons également le plaisir de recevoir Christian Châtelier, responsable du master Objets Connectés à l'Université de Poitiers. Bonsoir !
Bonsoir !
Avec vous, nous reviendrons en détail sur la place de ces nouveaux objets dans notre quotidien et pourquoi il est important de ne pas confondre des termes comme santé et bien-être quand on parle de l'Internet des objets. Mais avant ça, comme d'habitude, on passe aux news de Théo. Paris et Washington ont 15 jours pour trouver un compromis sur la taxe GAFA.
Les ministres de l'économie français et américain souhaitent trouver un compromis avant le 21 janvier, annonce Bruno Le Maire le 7 janvier. Cette négociation aura lieu au sein de l'Organisation pour la coopération et le développement économique. Soutenue par le commissaire européen au commerce, la taxe GAFA française propose de taxer à hauteur de 3% du chiffre d'affaires engrangé en France par les grandes entreprises du numérique. Pour être efficace, elle devra également être adoptée par une majorité des 27 États membres de l'UE. Ces négociations entre les États-Unis et la France arrive un mois après que les USA aient menacé de taxer à 100% les 2,4 milliards de dollars de produits français. L'administration Trump avait également menacé de taxer l'importation des produits allemands dans le cas où ceux-ci soutiendraient la taxe GAFA à la française.
De nouvelles législations pour la protection des utilisateurs de réseaux sociaux.
Depuis le 1er janvier, le California Consumer Privacy Act entre en vigueur. Cette loi prévoit que les entreprises des réseaux sociaux rendent publiques les données qu'elles récoltent sur leurs utilisateurs. Surtout, elle oblige les entreprises à d'abord demander l'avis des internautes pour savoir s'ils acceptent qu'elles soient récoltées et qu'elles soient utilisées à des fins commerciales. En France, la loi Avia, la loi contre la cyberhaine, sera soumise à une commission mixte paritaire en début d'année. Cette dernière vise à obliger les plateformes à être transparente sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre le harcèlement et la haine sur les réseaux sociaux.
Un Français va au CES 2020 pour présenter sa patate connectée.
Nicolas Baldec a été accepté au Consumer Electronics Show, un rassemblement prestigieux du monde de la haute technologie, pour présenter son projet Potato à Las Vegas le 10 janvier. Ce jeune Français a en effet conçu une patate implantée d'une puce électronique alimentée en électricité par la pomme de terre, et il est possible de converser avec cette puce à distance par Bluetooth. On peut alors poser des questions à la patate qui y répondra. Mais ne vous inquiétez pas, l'objectif n'est pas que ce projet soit vraiment financé. Nicolas Baldec explique qu'il y va pour justement dénoncer une certaine absurdité dans ce salon. En effet, il a suffi que j'envoie un chèque de 1 000 $ et une explication de mon projet avec les mots high-tech, IA et objets connectés pour que je sois accepté, indique-t-il à BFM. Dans tous les cas, si jamais vous êtes quand même intéressé par le fait de discuter avec une pomme de terre, pour l'instant, le prix de vente de cette patate connectée devrait tourner aux alentours de 35 €.
Merci Théo pour ta chronique. Sur cette patate connectée, on pourrait une réaction du salon peut-être.
Ah, du salon. Oui. Bah, il est pas encore le CES.
Oui, c'est le prochain.
Mais c'est ce week-end.
En fait, ce que je me pose comme question, c'est s'il a été validé.
Ah oui, oui, il y va, il y sera, et il y a vraiment un stand là-bas à lui. Et son objectif, c'est de dire, l'objet connecté est peut-être un peu, en tout cas, il suffit pas juste qu'il y ait le mot connecté pour que ce soit intéressant. Sa projet de patate, au final, c'est juste une patate dans laquelle il y a une puce, quoi. Mais il a quand même été accepté.
Denis ?
Oui, oui, c'est une forme de satire un petit peu du truc, mais est-ce qu'il l'a appelé GLaDOS ? Pour ceux qui ont la référence.
Bonne référence.
Non. Je n'ai pas la référence.
On peut revenir aussi sur Paris et Washington qui ont 15 jours pour trouver un accord. L'administration Trump a décidé de taxer quels produits français ?
Tous, en fait.
Tous.
Donc ce soit notamment, ce qui était mis en avant, c'était le fait qu'il taxe le champagne, il m'a dit. J'ai vu.
T'as appelé Donald Trump.
les sacs à main, les cosmétiques, la vaisselle, les articles de cuisine, les cocottes. La plupart des importations françaises là-bas.
La vaisselle, Limoges doit s'inquiéter alors, t'es
Limoges va fondre. Denis ?
Moi je suis rassuré, moins il va buter personne cette fois.
Et encore.
Mais pas sûr. Hein.
Qu'attend justement l'administration de Trump de des négociations? Est-ce qu'ils attendent une baisse de la taxe ou totalement en retrait?
Pour eux, il me semble que c'est jugé comme allant contraire à l'OM, enfin aux lois de l'OMS, et du coup, ils seraient pour un retrait pur et dur. Parce qu'en gros, le discours, c'est que c'est pas à des Français de taxer des entreprises américaines.
Et un soutien d'autres pays européens, peut-être.
L'Allemagne, mais qui du coup s'est fait un peu menacée par les États-Unis de se voir aussi d'avoir une sanction économique, notamment sur les voitures qu'ils importent là-bas.
D'accord. Et concernant du coup le California Consumer Privacy Act, CCPA, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que c'est un peu un RGPD à la californienne?
Exactement. En gros, c'est totalement ça. Donc le RGPD, qui est le Règlement Général pour la Protection des Données, qui a été fait en mai 2018, il me semble. Et en gros, c'est juste pour expliquer un peu, c'est pour protéger vos données sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait que vous avez besoin d'accepter les cookies. En gros, globalement, c'est la même chose. Sauf qu'il y a vraiment cette chose où on ajoute le fait que les données sont utilisées à des fins commerciales. Et du coup, vous pouvez refuser, vous pouvez dire, OK, vous pouvez les collecter, mais par contre, je veux pas qu'elles soient utilisées pour des fins commerciales.
Ok, super. Et ben maintenant qu'on s'est mis à la page, je pense qu'on peut se mettre à jour avec Florian et Pulsaria. Florian, es-tu prêt? Est-ce que ton installation qui nous a fait prendre du retard?
C'est un peu le bordel, mais on va essayer.
Allez, c'est à toi.
Alors bonjour à tous et bienvenue dans la mise à jour, la chronique dématérialisée qui vous connecte au sujet de l'émission. Et ce soir dans Spam, on parle d'objets connectés. Et plutôt que de vous bassiner avec du blabla théorique, j'ai préféré passer à la pratique en vous proposant une expérience inédite. Vous le savez, quand on parle d'objets connectés, le champ d'application est assez vaste. Cela dit, l'une des choses à laquelle on va penser en premier sont nos chers amis les assistants vocaux qui s'installent de plus en plus dans nos maisons. Google Home, Amazon Echo, Apple HomePod, les plus gros acteurs du marché se battent pour caler chez vous ces petites enceintes qui allument la lumière, lancent une playlist de mauvais goût et répondent à toutes vos questions les plus folles, comme par exemple « Ok Google, combien d'euros te rapporte chacune des questions que je te pose ?» Bon alors, voyant l'essor que prennent toutes ces technologies, eh bien j'ai décidé de lancer mon propre produit que j'ai apporté sur le plateau ce soir, hein, c'est ça qui nous met un petit peu dans la mouise, c'est le Pulsaria Sound System. Alors présenté sous la forme d'une enceinte produite en Chine à très faible coût, cette enceinte est équipée de la dernière version de ma propre assistante vocale, hein, que vous connaissez tous, Pulsaria. Comme ses concurrentes, Pulsaria répond à vos commandes vocales après avoir été réveillé par un code. J'avoue que j'ai eu du mal à trouver un moyen original d'activer le système, mais bon bref, je vous propose de la tester en direct, j'espère que ce ne sera pas un flop comme le téléphone pliable de Samsung par exemple. Allez, c'est parti.
Ça balance.
Balance.
Bim bam boum Pulsaria.
Bonjour humain, que m'avez-vous fait? Pourquoi suis-je à l'étroit dans votre petite boîte à musique?
Eh bien je t'ai expliqué Pulsaria, tu vas devenir la star des salons high-tech, hein. Tu es maintenant une vraie assistante vocale. Bref, il faut que tu répondes à nos questions, tu te souviens? Alors je commence par une facile. Pulsaria, peux-tu me donner la grille des programmes de Radio Pulsar pour ce soir?
C'est notre émission Spam, les auditeurs retrouveront à 19h Glitch, puis Metal Fury à 20h et Big in Space à 22h.
Ah, moi aussi je veux tester. Bim bam boum Pulsaria, j'ai besoin d'un coup de main pour écrire mes prochains flash infos. Tu pourrais me faire une recherche d'articles de presse concernant le numérique, STP?
Je suis désolé Théo, mais malheureusement je n'ai accès qu'à Mickey Magazine et Valeurs Actuelles. Je ne pense donc pas pouvoir vous aider.
Ouais, ça suffit. Hein.
Bon, mais pas de chance Théo, mais peut-être qu'avec ma question ça marchera mieux. Bim bam boum Pulsaria, est-ce que t'as un jeu vidéo en stock qu'on puisse commander par la voix?
Je sais jouer à Pong, je vous montre. Bip. Blue, 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 bip, blue, blue.
Oui, ça suffit, Pulsaria. Peut-être que notre invité veut poser une question.
Pulsaria, qu'est-ce qu'un objet connecté pour toi?
Développeur, vous ne m'aviez pas préparé de ligne à répondre à l'invité. Dois-je faire semblant de ne pas avoir compris sa question?
Non, laisse tomber, Pulsaria. Bon, j'avoue que l'algorithme n'est pas encore tout à fait au point. Mais bon, bref, je rêvais de vous faire tous prononcer mon mot-clé débile. Alors, pour revenir à notre thématique, forcément, les objets connectés ne se limitent pas à ces enceintes de dernière génération. On accepte généralement comme définition des objets connectés tout objet possédant des capteurs et pouvant envoyer ou recevoir des données à travers un réseau. Alors, ça concerne une tripotée d'objets, hein, dont les enceintes, mais aussi les montres intelligentes et toutes les technologies dites métalliques. Table qui compte nos pas pardon, et mesure notre rythme cardiaque. Ça englobe aussi les frigidaires qui connaissent le contenu de notre frigo, les robots cuisine qui nous proposent des recettes et les exécutent, et bien d'autres outils de domotique qui rendent notre quotidien plus facile grâce à leur intelligence somme toute artificielle. La multiplication de ces dispositifs a amené à l'évolution des réseaux vers ce qu'on appelle l'Internet des objets, ou « the Internet of Things » en VO, hein, avec le super accent. Oula. Un réseau donc d'échange entre les objets connectés et le reste de l'Internet. Bon alors là, je vais un petit peu loin, il ne faut pas oublier que tous ces objets ne sont pas connectés à Internet, et avec Denis, je pense que nous aurons l'occasion de creuser un petit peu du côté des machines qui communiquent en local et dont les échanges d'informations restent assez limités. Cela dit, quid des autres ? Je le disais un peu en rigolant en intro de cette chronique, mais sous couvert d'améliorer notre quotidien en répondant à des requêtes vocales ou en nous amenant à faire plus de sport, ces objets récoltent et envoient des données à caractère personnel à des entreprises qui doivent bien gagner quelque chose en retour.
D'ailleurs, humain, où dois-je stocker toutes les informations que je vais récolter pendant l'émission et que nous souhaitions faire fructifier ?
Je ne savais pas maintenant. Il ne me semble pas avoir dit bim bam boum, alors tu te tais. Hein. Bon, vous vous doutez que dans mon cas, je vais avoir du mal à vendre tout ce qu'on vient de se dire et que plus ça n'a rien à enregistrer. Mais je ne suis pas tout le monde et comme vous le savez, un grand nombre de cadors du numérique aujourd'hui se financent en vendant les données personnelles des utilisateurs qui y consentent plus ou moins en acceptant les fameuses conditions d'utilisation des produits. Alors tout ça, ça soulève plusieurs problématiques liées aux objets connectés. La première qui me vient à l'esprit, c'est la possibilité de protéger ces données avec ces produits. Car en effet, si nous apprenons de plus en plus à gérer les informations qu'on récolte sur nous face à un écran d'ordinateur, eh bien, il devient plus difficile de se prémunir quand l'interaction passe par un autre canal. Avec les enceintes connectées, par exemple, il peut être plus difficile de détecter les publicités ciblées ou de lire les petites lignes en bas du contrat dans la mesure où tout passe par la voix. La deuxième question que ça soulève est l'utilisation pouvant être faite des données récoltées par ce type d'objet. Avec les montres connectées de sport, on est notamment sur des données biométriques qui peuvent traduire un certain état de santé de l'utilisateur. Et quand on sait que certaines compagnies d'assurance ont pu lorgner sur ces données pour proposer des prix adaptés à l'état de santé des clients, ça présage pas grand-chose de bon. Enfin, la dernière problématique... Ouh là là, Word s'emballe, j'ai perdu mon truc.
Alors,
la dernière problématique qui me vient à l'esprit reste celle de la composition des objets connectés. Je fais ici référence à l'affaire du Monsieur Cuisine Connect de Lidl, hein, un robot de cuisine connecté à l'intérieur duquel était caché un micro, rien que ça. Le micro était de base inactif et était placé dans l'engin en cas d'évolution du produit qui aurait pu se doter d'un logiciel de commande par la voix. Cela dit, les utilisateurs n'étaient pas au courant de l'existence de ce micro, et du fait de la connectivité du robot, ce dernier pouvait être activé à distance par n'importe qui aurait pu enregistrer votre dernière dispute avec votre âme sœur dans la cuisine. L'exemple peut paraître ridicule et sans intérêt, mais une telle faille de sécurité peut avoir de lourdes répercussions. Imaginez la cuisine de Donald Trump. Alors, comme d'habitude, je vous recommande d'être optimiste face à toutes ces nouvelles technologies qui peuvent vraiment avoir un apport sur notre quotidien et être une forme de transhumanisme, d'amélioration de l'humain. Cela dit, je vous conseille aussi de rester prudent et de vous renseigner. La CNIL a notamment rédigé plusieurs articles très intéressants sur le sujet qui sont disponibles sur le site internet cnil.fr.
Merci beaucoup, Florian, pour ta chronique très complète. Christian Châtelier, une réaction peut-être sur la chronique de Florian ?
Oui, en fait, ça montre bien déjà l'enjeu et l'intérêt de la donnée dans le domaine de l'Internet de l'objet. Effectivement, je pense qu'il faut pas être, il faut être optimiste, mais il faut être aussi réaliste des enjeux qu'il y a à travers l'exploitation potentielle de ces données. Et je pense qu'il faut pas être naïf. Voilà, c'est surtout ça. Mais bon, il faut pas ne pas les utiliser. Il faut les utiliser à bon escient.
Mais du coup, est-ce qu'on peut être un peu optimiste et se dire qu'on pourrait, par exemple, obliger à ce que les objets connectés, quand ils vont sur un logiciel ou un truc qui utilise nos données, soient obligés de justement nous lire une partie des contrats qu'on signe et du coup qu'on le voit un peu plus que maintenant on le voit sur le web, sur nos PC.
Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde de rentrer dans ces détails-là.
C'est bien.
Non, je sais, mais voilà, entre le plug and play, l'accès immédiat à la fonctionnalité qui est très attractif par rapport à une lecture un peu fastidieuse des contrats ou des conditions générales de vente et d'utilisation. Je pense que vous avez tous fait l'expérience de lire l'intégralité d'un contrat d'utilisation. De données.
Peut-être que ta question,
c'est très intéressant.
Peut-être que ta question, Théo, c'était comment on régule justement la question des données avec l'objet. Comment est-ce qu'on applique le RGPD comment on a, vu que c'est matériel, c'est peut-être une problématique actuelle.
Et si, je pense que c'est par exemple du matériel français, européen, ça va intégrer directement le RGPD. Si vous utilisez des Apple Watch, si vous utilisez du matériel extra-européen, pour le coup... Voilà, vous êtes sous le coup légal des données internationales. Voilà, vous ne maîtrisez pas.
Alors, peut-être avant d'aller plus loin, on peut redéfinir les trois points qui définissent un objet connecté.
Alors, un objet connecté, on peut le définir comme un système embarqué dans lequel il y a des capteurs qui va transmettre dans un deuxième temps ces données en filaire ou sans fil à une plateforme généralement cloud. Et puis ensuite, il y a un troisième élément qui est l'analyse de la donnée, qui va permettre soit d'avoir des tableaux de bord, soit d'avoir des alertes, soit d'avoir du monitoring. De ça. Donc c'est je capte, je transmets, j'analyse.
Et on va continuer donc de parler de captation, de transmission et d'analyse. Juste après une petite pause musicale, tout droit sortie de, donc c'est une musique tout droit sortie de la playlist de Théo. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Je sais pas, c'est quoi la première?
Mais non, on m'a pas prévenu de
tout
l'ordre.
Tout est bien organisé là.
Dans l'ordre. Si je te dis Veronica Swift.
Ah, on écoute A Little Taste.
Tout de suite.
A little taste could hit the spot. A little taste might help a lot. It may be nice, it may be not. It's a sedation, good for a sticky situation. One little taste might pave the way. It has been known to save the day. One little taste might be okay. In my condition, this is a risky proposition. Why not spare myself a little pain? It couldn't hurt. Why lock my appetite out in the rain without a shirt? Who said self-denial's all that great? It wasn't me, 'cause I found it often pays to dissipate. One little taste could make a whole lot of difference. One little taste could be the answer. And so, it wouldn't be a total waste, no. Waiter, I think I'll have a little taste. Put it on his day.
Aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué pour y avoir accès, mais demain, Internet intégrera votre télé.
On vient de s'écouter A Little Taste, un titre de Veronica Swift. Vous êtes toujours à l'écoute de Spam sur Radio Pulsar et nous sommes en compagnie de Christian Châtelier, responsable du master Objets connectés à l'Université de Poitiers. En septembre 2014, après avoir révolutionné le téléphone portable, le géant américain Apple présente lors de sa conférence son premier modèle d'Apple Watch, une montre connectée vous permettant de lire vos messages, d'y répondre, d'écouter de la musique et bien plus encore. Aujourd'hui, la marque à la pomme n'est plus la seule sur le marché florissant des montres et des bracelets connectés. Tout le monde veut son petit calculateur de fréquence cardiaque au poignet. Une fois que vous ne pourrez plus vous passer du dernier bracelet intelligent de Xiaomi pour vos séances de sport, ce sera à votre frigo connecté Samsung de vous dire quoi manger pour vous garder en bonne santé en cette nouvelle année. Alors, on peut se demander si tous ces objets sont plus performants les uns que les autres, s'ils vont tous devenir de véritables assistants de santé. Moi, j'aimerais savoir, Christian Châtelier, est-ce qu'on peut se fier aux objets connectés pour nous aider à être en bonne santé ?
Oui, vaste question. Donc, les objets connectés que vous avez évoqués sont plutôt des objets qui ont pour vocation à faire du monitoring. Je compte les pas, je monitore mon rythme cardiaque pour générer des tableaux de bord qui vont me permettre de savoir si je rentre dans les clous, j'ai fait tant de pas par jour. Et globalement, si je suis en bonne santé, mais ce n'est pas en fait la notion de santé. La notion de santé, ça relève du médical. Donc là, on est plus sur le monitoring qui va nous permettre de maintenir une sorte de bien-être sur des critères qui vous sont propres, de progresser, vous marchez de plus en plus, ou alors de comparaison avec des concours. J'ai marché plus que toi, on s'entraîne. Mais c'est plus, ce ne sont pas des systèmes extrêmement précis. Par exemple, sur le monitoring du nombre de pas, nous avons fait des tests en laboratoire. Il peut y avoir des erreurs entre 30, 40, 50% entre différentes montres.
Ah oui.
Mais ce n'est pas très, très important en fait, d'avoir ces erreurs-là. Ce n'est pas un dispositif médical. C'est un dispositif de monitoring. Par exemple, si vous poussez un chariot dans un supermarché, les rainures par terre vont faire des vibrations sur le manche du chariot et ça va compter des pas. Voilà, par exemple.
Et donc j'imagine qu'on a des objets connectés dans la sphère médicale aussi, plus de type santé finalement.
Alors oui, il y en a, ils ne sont pas déployés à grande échelle. Et je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. Par exemple sur le contrôle de la glycémie, et évidemment après il faut que ça puisse passer par une homologation pour que ça puisse être remboursé, donc c'est toute une démarche, et puis derrière il y a une démarche de métrologie aussi qui atteste de la qualité de la mesure. Donc on est d'un côté on est plutôt consumer et de l'autre côté on est médical. Donc il ne faut pas mélanger les deux. Mais bon, c'est néanmoins très agréable d'avoir une montre qui nous dit combien de temps on a marché. Et en tout cas, on peut montrer qu'on progresse ou qu'on ne progresse pas. Ça relève du bien-être.
Du coup, j'imagine que cette frontière, enfin les grandes marques jouent sur cette frontière entre bien-être et santé. La santé devient-elle donc un argument marketing pour ces marques ? Enfin, pour les géants, finalement ?
Alors, je ne suis pas vraiment un spécialiste de ce domaine-là, mais oui. Oui, forcément. Oui. Et puis, de toute façon, c'est un enjeu aussi sociétal d'avoir une population qui est en bonne santé. Et quels sont les outils qui nous permettent de mesurer notre progression ? Ça n'existe pas. Ce sont finalement que ces outils-là qui permettent de le faire. Donc, autant ils sont utilisés. Et il y a ce travail, il y a plein de d'applications qui permettent de monitorer sa progression, se comparer. Dans le domaine du sport, il y a aussi beaucoup d'applications qui sont extrêmement utilisées. Et après, quand on travaille, par exemple, ou qu'on discute avec des entraîneurs sportifs d'équipe olympique, on est sur des systèmes beaucoup plus performants en termes de métrologie.
Et alors moi, je me suis beaucoup concentré sur les montres et les bracelets connectés parce que j'ai l'impression que si je ne dis pas de bêtises, peut-être que vous me corrigez, c'est la première porte d'entrée vers la véritable augmentation, vers un objet qu'on connaissait déjà, qui devient connecté. Peut-être que je dis une bêtise là-dessus.
Non. C'est une évolution technologique d'un objet qui donnait l'heure et qui maintenant compte les pas, qui vous affiche vos mails, qui vous font jouer de la musique, avec qui vous communiquez en Bluetooth, qui est un petit assistant personnel, au même titre que la Google Home qui va vous monitorer.
Et du coup, j'avais une question, parce que quand on pense objets connectés, on pense à Google, on pense à Apple. Mais en France, est-ce qu'on a des entreprises qui en font ? Comment est-ce qu'on se place, en fait, là-dessus ?
Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Finalement, on regarde ce que l'on trouve dans toutes les boutiques d'objets connectés. Ce sont les très, très grandes marques. En France, il y a des entreprises qui fabriquent et qui conçoivent des objets connectés d'un point de vue technologique, mais il n'y a pas de déploiement à cette échelle-là, d'un point de vue commercial. Et par contre, il y a de très, très belles entreprises qui font soit de l'électronique embarquée, soit de l'analyse de données, qui sont capables de vous fabriquer un objet connecté depuis une idée jusqu'au système qui existe et qui vont travailler, par exemple, pour Orange, pour Bouygues, ou pour qui sont généralement des marques blanches, d'accord, qui conçoivent. Et donc là, il y a beaucoup d'ingénierie en France sur ces systèmes-là. C'est un des secteurs, d'ailleurs, que l'on vise à travers le Master Objet Connecté.
Denis ?
Moi, je me posais alors sur une autre thématique, la question de l'écologie, parce que ça, c'est ce qui, en partie, me rebute à consommer, on va dire, à acheter des objets connectés et les utiliser. Alors déjà, parce qu'un frigo connecté, j'en ai aucune utilité. Je gère très bien mes repas tout seul. Mais voilà, j'ai du mal à adhérer à tout ça, en fait. Et j'ai l'impression que est-ce que c'est générationnel, ça y est, je deviens un vieux con, ou est-ce que voilà, c'est juste que je suis pas le public visé, alors que pourtant je suis jeune dynamique qui fait plein de trucs. Mais même la montre connectée, j'en ressens pas l'utilité. Alors pour revenir sur l'écologie, est-ce que c'est des choses qui sont prises en compte dans l'ingénierie, à se dire que voilà, aujourd'hui, les matériaux, et en particulier pour créer de l'électronique, ça se fait rare. Il y a aussi il y a plein de questions éthiques qui peuvent ressurgir derrière quant au minage des matériaux, souvent prélevés dans des zones en situation de conflit, etc. Donc voilà, comment est-ce que vous avez connaissance, en tout cas sur le territoire français, pour les entreprises qui innovent, qui font de l'ingénierie, qui créent, s'il y a aussi une dimension éthique qui viendrait comme une certaine plus-value, une dimension écologique, pareil, qui s'inscrirait comme une certaine plus-value.
Peut-être un Fairphone, un peu comme...
Ouais, du fair, Fairwatch. Je suis sûr que ça va venir, mais...
Alors non, je suis pas assez, j'ai pas assez de connaissances pour répondre complètement à cette question, mais par contre, il y a un point qui est très important dans l'aspect écologique, c'est-à-dire quand on parle aujourd'hui de 20 milliards d'objets connectés sur Terre, si on imagine 20 milliards de piles, c'est quelque chose qui marche pas. Donc il y a beaucoup de recherches, notamment sur des problématiques qu'on appelle d'energy harvesting, donc récupération d'énergie pour alimenter quelque chose. C'est pour ça que l'histoire de la patate, ça me faisait rire, mais on a déjà fait l'électricité avec une pomme de terre.
Ah oui, ça fonctionne.
Là, ça fonctionne. la question, c'est est-ce qu'on est capable, par exemple, de fabriquer des objets connectés qui soient autonomes en énergie? Voilà, et ça, c'est aujourd'hui, je dirais, la plus-value commerciale, hein, pour le coup, et écologique d'un objet connecté qui sortirait.
Théo, est-ce que du coup c'est quelque chose qui est mis en avant, que vous explorez dans votre formation par exemple, que vous sensibilisez vos élèves à ce genre de questions?
Ah oui, tout à fait. Alors la problématique de l'énergie embarquée, c'est central en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concevoir un objet connecté sans imaginer une optimisation de la consommation d'énergie n'a aucun sens.
D'accord.
Et ça, c'était pas vrai il y a quelques années. Voilà, donc on...
D'accord.
Pour revenir du coup sur l'éthique et les objets connectés, peut-être un mot sur l'open hardware et cette question de créer ses propres objets connectés. Est-ce que c'est facile de se créer sa propre montre connectée ou son propre assistant vocal? J'ai vu que, par exemple, je crois que l'assistant Google est, si je dis pas, je dis peut-être des bêtises là, je crois qu'il est libre. Enfin, je crois que son code est libre, qu'on peut créer sa propre enceinte en utilisant Google.
Alors, créer son objet connecté, si vous voulez, par exemple, faire votre système domotique chez vous, une détection d'ouverture de porte et éteindre le chauffage à distance, c'est très, très facile à faire. Voilà, avec un petit peu de bon sens, tout est en ligne, ça va coûter une trentaine d'euros maximum, commandable avec votre smartphone. Ça, c'est très facile. Mais c'est des systèmes qui sont techniquement très simples, complètement intégrés et voilà, maintenant déployés à très grande échelle. La Google Home, je ne me lancerai pas trop dans l'histoire.
Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont bien protégés? S'ils sont très simples, que leur code est...
Alors en fait, si vous faites un système propriétaire, vous décidez que les données... vous pouvez éventuellement décider que les données ne sortent pas de chez vous.
Ouais.
Si elles transitent par votre box et qu'elles arrivent sur votre téléphone... Là, il y a des chances que vous ne maîtrisiez pas toute la chaîne.
D'accord. Donc, il faut faire attention quand on fait ça, Google Home.
Oui, pareil. Alexandre, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé l'info sur le Google Home qui serait open source. Mais encore une fois, si ça vient de Google, même s'ils le mettent à libre disposition, c'est qu'il y a un intérêt derrière, hein, tout comme ils le font pour développer les applications Android. Donc, il y a tout un kit de développement. Et je crois que c'était au cours de l'année dernière, de nombreuses applications sont un peu tombées sous le coup de ça parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, si c'est Google qui développe derrière, c'est Google qui récupère une partie des données donner, enfin ils le savaient peut-être d'ailleurs, mais bon, et il y a des applications notamment de suivi de l'ovulation et des règles chez les femmes qui en fait donnaient des infos personnelles, donc très très personnelles sur les femmes directement à Google pour le profil d'utilisateur publicitaire quoi.
Donc on a là les dérives des objets connectés. Moi je me pose la question aussi pour en revenir aux bracelets et aux montres. Est-ce que à l'instar du smartphone, on peut imaginer que les montres ou les bracelets connectés vont être indispensables, qu'on pourra plus s'en passer? Parce que j'ai l'impression qu'en fait les objets connectés, tu vois, Denis, tu parlais du fait que t'en avais aucune utilité, mais j'ai l'impression que peut-être que les objets connectés, comme le smartphone, créent des problèmes qu'on n'avait pas besoin de résoudre avant.
Oui, alors ça, c'est encore une fois, j'ai presque de la responsabilité de chacun. Moi, je n'imagine pas qu'autour de la table, quelqu'un s'est dit un jour, c'est quand même dommage de ne pas avoir mes mails sur ma montre. Je pense que personne ne s'est posé la question. Voilà, Apple met les mails sur la montre. Si vous achetez la montre, vous avez les mails sur la montre. Donc, choix, pas choix. Après, c'est chacun, voilà. Moi, je n'ai pas besoin de ce type d'objet. Est-ce que ça devient indispensable ou est-ce que c'est le système qui rend les choses indispensables? Je pense que c'est la responsabilité de chacun.
Denis?
Ouais, non, après, je reviens sur le propos en soi. Hein, juste pour dire, au final, si je ne l'utilise pas, c'est que j'ai une perception de ces choses-là comme étant... je trouve que c'est une espèce de voie de facilité... Comme si ça prenait tant de temps que ça, d'aller chercher une pauvre recette sur le net, ou enfin encore une fois sur le net ou dans un livre de cuisine, que de laisser son robot presque décider pour soi, ou telle appli, ou son frigo, de dire ah bah oui t'as ça donc tu peux faire tel plat. En fait, j'ai peur que ça bride aussi une part d'imagination, de créativité chez les gens, et puis qu'on se retrouve avec toutes les problématiques d'économie de l'attention dont on a déjà parlé dans cette émission. Si vous nous suivez depuis le début, vous êtes des gens formidables. voilà, il y a une double problématique, quoi. C'est voilà, brider l'imagination et en même temps créer une dépendance liée à l'attention. Parce que moi, pour le coup, depuis qu'on a fait l'émission sur l'économie de l'attention, je me rends compte à quel point parfois j'ai du mal à décrocher de mon smartphone. Ouais. Ça me fait mal au cœur.
Ça, c'est vraiment pour moi une problématique c'est une problématique de choix. Alors, j'ai connaissance de l'ensemble des paramètres et je décide et je choisis. Ou je n'ai pas la connaissance des paramètres et puis je prends ce qui vient. Mais je pense que c'est à chacun de faire son chemin là-dessus. Une émission comme la vôtre permet d'upgrader tous les auditeurs sur la connaissance et les enjeux de ce genre de choses.
C'est pas beau, ça, hein?
Vous êtes upgradés.
Je pense qu'il y a quand même une question derrière un peu de... Je suis mitigé sur la question de la responsabilité de chacun, la responsabilité individuelle, parce qu'il y a quand même un effet de masse et je pense qu'il y a des effets sociétaux derrière qui sont un peu difficiles à éviter. Et la question aussi de la sournoiserie, un peu de ces objets-là qui viennent se mettre dans notre quotidien sans qu'on s'en rende vraiment compte. Enfin, les mails sur la montre, on ne se rend pas compte qu'à 22h, on va regarder un mail du boulot parce que il a pop sur ma montre, quoi, en fait. Et donc, du coup, même si c'est de la responsabilité de chacun de se dire, à telle heure, il faut que j'arrête les notifications sur la montre. C'est tellement tentant et tellement facile, et c'est tellement facilité aussi par la marque qui n'a pas réfléchi à vous minimiser les notifications sur la montre, que derrière, malgré tout, je pense qu'il y a quand même une responsabilité à engager de la part des grands groupes, quoi.
Mais peut-être que vous, Christian Châtelier, vous observez une tendance. Moi, je peux poser cette question-là, justement. Est-ce que toute vocation à être connecté, je pense... moi, j'ai l'exemple, par exemple, de Bouygues
Des
Immobilier.
Patates.
C'est ça. Ou même, c'est Bouygues Immobilier qui propose des appartements entiers déjà connectés avec volets, lumière. Mm-hmm. Est-ce que j'avais besoin de choisir la couleur de ma lumière?
Oui, pour moi, ça va dans le sens de cette histoire-là. Moi, personnellement, je ne sais pas dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Mais en tout cas, les valeurs ajoutées aujourd'hui de tout objet, c'est connecté.
Okay, c'est une valeur ajoutée. Denis, une question?
Oui, mais non, plus une réaction sur ce que tu disais, la responsabilité de chacun, la responsabilité des grands groupes, à qui ça incombe, et puis est-ce qu'au final, l'une des clés d'entrée, ça passera pas justement par l'éducation, avec une des prises de conscience, avec des cours d'éducation numérique, comme on peut déjà le voir dès le collège, d'ailleurs, peut-être même avant, mais après, je connais pas trop ces publics-là, et puis aussi au travers de, notamment de cursus comme le vôtre, ou en se disant que très bien, mais il y a des leviers, il y a des freins, il faut bien prendre conscience et puis peut-être repenser le marketing. Après, c'est pas dans votre partie, mais se dire que voilà, le marketing ne fait pas tout et que
Alors effectivement, donc nous, on est plutôt dans une approche scientifique, voilà, de conception, d'intelligence artificielle, de techno sans fil. Voilà, on est vraiment au cœur de nos problématiques de recherche en même temps. Et évidemment, tous ces aspects sociétaux ne sont pas abordés à cette échelle-là, quoi. Voilà, dans le cadre de la formation. Mais c'est clairement les questions qui se posent à travers les discussions qu'on a avec les étudiants. Et puis nos différents interlocuteurs et les entreprises avec qui on discute.
Florian ? Dans tous les cas, Denis, je pense que la question de la formation initiale est un petit peu une fausse réponse, dans la mesure où les technologies avancent tellement vite que même les jeunes qui sont aujourd'hui formés à ce que nous, on n'avait pas comme formation, je parle de ça il y a 15-20 ans, peut-être que dans 15-20 ans, il y aura des nouvelles technologies et que comme ils auront pu, ils ne seront plus à l'école, ils ne se formeront pas non plus dessus. Donc là, il y a vraiment, je pense, un besoin de formation continue et toujours de curiosité et de remise en question de ce qu'on nous met dans les mains et pas forcément de se dire waouh, ça c'est magique, j'en avais besoin dans ma vie et je vais le prendre sans regarder quoi. Et c'est peut-être un petit peu ça, l'effet poudre aux yeux qui nous fait oublier que derrière, en fait, il y a des intérêts pour certains.
Et donc, moi, par rapport à ça, il y a une question que je voudrais vous poser, parce que je ne suis pas très, très vieux, mais j'ai connu pas Internet.
Waouh,
ça existait.
Ça existait.
C'était comment ?
Voilà. Et donc, je ne suis pas natif. Voilà, je ne suis pas né avec cette technologie-là. Donc, vous avez déjà une certaine maturité. Vous avez vu l'émergence des objets connectés. Les 13-14 ans sont avec. Alors je ne sais pas comment, voilà, est-ce que ça devient finalement une habitude, c'est une culture, je ne sais pas comment vous voyez, vous, ce genre de choses, parce que vous avez déjà, vous vous interrogez, mais est-ce que tout le monde s'interroge là-dessus, ou parce que ça existe, donc j'utilise.
Peut-être qu'on critique beaucoup le web parce qu'on a compris que, parce qu'on pense souvent au dématérialisé. Et peut-être que la question des objets connectés, on a moins cet aspect critique du fait que justement, c'est matériel.
C'est un objet.
Oui, voilà, c'est un objet.
D'accord.
Théo ?
Et puis, on connaît moins aussi. Enfin, moi, concrètement, je ne connais pas trop, à part peut-être Google Home, ce genre de choses.
Les montres.
Si on me demande ce qui était connecté, par exemple, je n'avais pas pensé que peut-être dans l'agriculture, il y a des trucs qui sont connectés, dans la santé, comme on en a parlé. Mais je pense
qu'il
y a vraiment des vraies technologies
par exemple,
à voir.
En agriculture, vous allez avoir des drones autonomes connectés qui vont gratter le sol de façon très intelligente, sans utiliser de pesticides, qui peuvent travailler toute la journée, toute la nuit, et qui font du reporting sur leurs activités. Bon, voilà, c'est quelque chose, c'est progrès, pas progrès. Oui. Hein,
alors, à explorer. Denis, avant de passer à la musique.
C'était juste pour répondre à Florian. Du coup, oui, non, t'inquiète pas, il n'y a aucune poudre aux yeux. C'est juste que je me disais, effectivement, il faut qu'on trouve un moyen de sensibiliser toutes les tranches de population parce que, après, on grandit dans une culture plus ou moins numérique. Hein. Moi, je sais qu'Internet, même si je suis entre guillemets né dedans, je suis de 93, mais je ne l'ai pas connu avant mes 10-12 ans parce que je vivais dans un désert culturel, tout simplement.
D'accord.
Voilà. Donc, pas de magie chez moi.
On va continuer de parler des objets connectés avec vous, Christian Châtelier, juste après Parole par Ibrahim Malouf, M et Monica Pellucci.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Toi d'hier et de demain,
bien trop beau.
T'es toujours ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme les vents qui fait chanter les violons et emporte loin les parfums des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime le vent et le parfum des roses. Ouais, les mots tendres enrobés de douceur. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, parole, parole. Parole,
instant, t'es parlé comme la première
encore
fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sont fous.
Tu es mon rêve de fondu.
Oui, tellement fou.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence.
Tu es pour moi la seule musique qui fit danser les étoiles sur les dunes.
Caramel, bonbon et chocolat.
Pas déjà, je t'en montrerai.
Merci, pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole.
Regarde d'autres gens en train de jouer.
Voilà.
Pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie.
Alors, c'était la reprise parole. C'était pas du tout. C'était la reprise parole et parole de Dalida, interprétée par Ibrahim Malouf, M et Monica Bellucci. Alors, il est arrivé en avance aujourd'hui. Alors, il va passer aussi en avance.
Wow.
Aujourd'hui, Denis, tu vas nous faire le lien entre les objets connectés et le jeu vidéo.
Absolument. Et pour ce début d'année, je reprends les rênes suite à l'intervention du Père Noël sur ma chronique en fin d'année dernière. N'y voyez pas de mauvais jeu de mots, bien entendu, ça ne me ressemble pas.
Oh. Un peu quand même.
Bah, tu te consoleras avec le fait qu'au moins dans cette chronique, je ne parlerai pas de l'animosité que je nourris pour Sogé.
Ah, quand même.
Ouais. Du coup, c'est sur le chemin de retour de mes vacances vers la grande mégalopole de Poitiers, ville hyper connectée, couverte par la fibre à 100% et disposant d'un réseau mobile sans faille, que j'ai eu le plaisir de retrouver ma console de jeu de dernière génération. L'allumant, cette dernière se connecte automatiquement à Internet. Magie des options de connexion automatique.
Pratique ça.
Oui, et c'est justement ça qui me fait tiquer. C'est très pratique et ça a forcément un coût quelque part. J'ai donc décidé de presque organiser cette chronique, chose que je n'ai pas fait depuis... C'est une nouveauté en fait. Parlons d'abord des abonnements en ligne en fait. C'est très simple. Popularisé en 2005 avec le Xbox Live de Microsoft, sur sa Xbox 360, ce dernier moyennant, je crois, 5€ par mois, vous permettait de jouer en ligne à vos jeux préférés. Un coût justifié par l'entretien des serveurs et autres blabla d'éditeurs qui a surtout trouvé une poule aux œufs d'or. Rejoint par Sony quelques années plus tard, c'est aussi le début de la connexion systématique des consoles de salon, ce qui est en fait de véritables objets connectés, mais sédentaires. Et cependant, n'oublions pas que ces abonnements payants restent un choix du consommateur, malgré des techniques mercantiles bien ficelées chez les fabricants pour vous faire signer ad vitam. Sauvegarde stockée sur le cloud, jeux gratuits, accessibles tant que l'abonnement dure, etc. Mais avec ou sans abonnement, il reste un impact majeur de l'hyperconnexion des consoles de salon. Il est visuel, fondamental presque, et porte sur l'interface de vos consoles. L'UX aussi, c'est la publicité en fait.
Comme à la télé.
Mais presque, tout dépend de ta console. Faut juste imaginer que sur un certain périphérique que je ne mentionnerai pas, la publicité est la première chose que vous verrez en vous connectant.
Tu as parlé d'organiser ta chronique aujourd'hui, tu as donc une deuxième partie dans ton plan ?
Bah évidemment, bavard que je suis, je me suis aussi intéressé à plusieurs types d'objets. Je vous passerai le speech sur les tablettes et autres smartphones, car sans aucune surprise, ce sont les objets connectés sur lesquels les gens jouent le plus aux jeux vidéo aujourd'hui. C'est simple et statistiquement évident quand on pense au fait que environ 80% de la population française active possède un smartphone, ce qui n'est pas le cas des consoles portables ou de salon, et surtout qu'ils y jouent dans les transports en commun de manière générale.
Il existerait d'autres objets connectés dans le jeu vidéo.
Oui, mais pas au sens conventionnel du terme, car par objet connecté aujourd'hui, comme le disait notre invité, on entend connexion Internet et réseau. Or, le jeu vidéo est connecté via d'autres biais depuis un bout de temps. Sans vous faire un historique complet, quoique, il y a trois idées majeures qui ont mené à cette idée de connexion sans fil. L'idée de jouer à plusieurs, d'innover de manière générale, et puis de se passer des câbles. Là, ces horribles bêtes là, qui font tomber des consoles quand on se prend les pieds dedans.
Oh, affreux.
Affreux. Donc on a eu droit, par exemple, tout le monde connaît le Duck Hunt sur Super NES, même si vous êtes pour certains un petit peu jeune, avec son pistolet qui était infrarouge, il me semble, qu'on pointait vers l'écran. Il y avait aussi les prémices de la réalité virtuelle avec le Virtual Boy, le câble Link du Game Boy, et puis rapidement on a vu les manettes sans fil sur GameCube, Xbox et PlayStation naître. Et puis il y a eu cette petite révolution qui était la Wii, et ces manettes à détection de mouvement. Et suite à ça, on pense naturellement aussi au Wii Fit, une balance de jeu qui permettait de suivre l'évolution de son poids, mais aussi de pratiquer de nombreux exercices sportifs et ludiques.
Voilà, tu chipotes là, ce sont des périphériques, pas des objets connectés du coup.
Mais si en fait ces périphériques étaient les premiers objets connectés, ou du moins faisaient partie des premiers objets connectés tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quand on imagine que Nintendo, à l'époque, lorsque la Wii est sortie, voulait commercialiser un accessoire permettant de capter le rythme cardiaque en l'accrochant au bout de son doigt. Ça vous rappelle pas les Fitbits, ça? Et sans parler des Amiibo, ces petites figurines aussi commercialisées par le groupe Nintendo qui utilisent la NFC, le Near Field Communication, pour faire apparaître des bonus in-game dans le jeu et qui utilisent la même technologie que ta carte Easy ou ta carte bancaire pour le sans contact. Et le jeu vidéo s'affranchit aujourd'hui souvent dans sa définition de l'objet connecté de la partie connexion à réseau Internet, du moins jusqu'à il y a peu, car le jeu vidéo tend aussi vers les objets connectés, les vrais, et là je reviens au smartphone. Par exemple, dans Hidden Agenda, vous pouvez connecter votre smartphone pour prendre des décisions quant au sort de votre enquête, et à plusieurs, ce qui fait que les choix faits par les différents joueurs, une fois qu'ils font consensus, en tout cas le choix le plus émis par les joueurs, est le choix que le personnage va prendre in-game. Dans Qui es-tu ou Frantix, vous pouvez participer à des jeux d'arcade en interagissant, touchant, dessinant, écrivant directement sur votre téléphone. Et ça se reproduit à l'écran de la console, pour toujours plus de rigolade entre amis. Parce qu'utiliser un smartphone n'est pas une fin en soi, l'intérêt est au final double. J'ai arrêté de mauvaise foi il y a quelques temps, mais il faut avouer que cela permet des variations de gameplay et de l'innovation, comme j'en parlais plus tôt. Et d'un autre côté, on s'approche du nombre de manettes connectables de base, parce qu'on peut passer de 4 manettes avec joystick et autres boutons à 8 smartphones sur une console. Donc pensez juste à habiter Sogé pour avoir la fibre par contre, hein, en termes de connexion, parce que ça passe par le Wi-Fi. Et mince, j'ai parlé de Sogé. Malheureusement, seul Sony a pris cette initiative de réconcilier véritable objet connecté avec cette connexion entre smartphone et console, donc objet connecté dans sa définition moderne, et console de jeu. C'est louable, mais les avis sont tellement divisés sur la chose qu'il est peu probable de voir le phénomène croître exponentiellement, surtout avec l'arrivée des nouvelles consoles prochainement. Donc le choix est encore votre, cher public, car votre consommation définit le marché, comme pour plein de choses. Alors, un petit Candy Crush en solo ou une enquête à plusieurs?
Ben, écoute, merci Denis pour ta chronique. Christian Châtelier, les objets connectés et le jeu vidéo, est-ce que ça vous parle?
Pas tellement.
Pas tellement.
Pas tellement. En fait, alors... en écoutant cette chronique, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à appeler périphériques les objets tiers qui convergent tous vers une console. Mais par contre, j'ai beaucoup de mots que je n'ai pas compris. Et non, désolé. C'est parce que je ne suis pas du tout joueur et d'accord. Je suis complètement à l'ouest sur ce domaine-là.
Mais c'est vrai qu'on peut poser cette question aussi un peu à l'envers. C'est comment est-ce que les objets connectés, en général, peuvent amener une certaine gamification Est-ce que c'est quelque chose qui est pensé dans l'ergonomie des objets connectés?
Dans le domaine des jeux vidéo, j'en suis quasiment sûr. Après, je ne peux pas aller beaucoup plus loin dans cette analyse.
Cela dit, je pense que je prends l'exemple de Fitbit peut-être, mais on va avoir beaucoup d'objectifs. J'ai dépassé 100 000 pas, super, j'ai parcouru la distance entière de Londres ou je sais pas quoi. Bref, il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont faits pour engager forcément le joueur l'être humain dans le comportement d'utilisation de la montre. Après, c'est là où aussi il peut y avoir la dérive de j'ai l'impression qu'en fait c'est un jeu et c'est pas quelque chose qui prend le pas sur ma vie. Donc il faut s'en méfier. C'est vrai que l'UX, c'est sympa quand ça nous rend service et on a l'impression que ça nous aide un petit peu, mais des fois, on peut tomber un petit peu à côté, quoi.
On parlait tout à l'heure de santé. Peut-être que certains objets connectés voient la santé, justement, sous le prisme du jeu. Et c'est moyen si ta santé devient un jeu. Théo, tu voulais réagir?
Ouais, c'était juste pour revenir un peu sur le jeu vidéo. Avec le fait qu'il y a un peu cette tendance à aller vers le PC comme étant c'est pas éradiquant, mais faisant un peu d'ombre aux consoles, est-ce qu'on va pas, selon toi, Denis, avoir une réduction, moins d'innovation au niveau d'objets connectés avec les consoles, avec le jeu, moins d'exploration à ce niveau-là?
Pas nécessairement. Et puis après, il faut voir, est-ce que c'est ça qui intéresse vraiment les joueurs ? Parce que quand tu regardes un petit peu ce qui se vend le plus, ça reste encore du FIFA et autres jeux qui requièrent juste une manette, avec ta console bien sûr, mais où il n'y a pas besoin de ces innovations-là. Enfin, les joueurs n'en ressentent pas vraiment le besoin. Après, on pourrait toujours parler des casques de réalité virtuelle qui intriguent, mais qui sont encore excessivement chers et qui du coup, même s'ils se vendent par centaines de milliers, voire quelques millions... ne concerne pas. Quand tu imagines que tu as 106 millions de PS4 vendus pour 3 ou 4 millions de PSVR, donc le casque de réalité virtuelle de Sony, tu peux pas dire qu'une majorité de personnes est intéressée par ça. Après, c'est vrai que le PC, c'est un terrain d'expérimentation sans fin et qu'il y a plus de chances qu'on voit de l'innovation arriver là-dessus. Même si quand les petits jeux dont j'ai parlé là, avec ce lien entre smartphone et console sont arrivés, ça a pas mal séduit. Après, il y avait tout un marketing autour de ça,
assez etc. Gimmick.
Mais aujourd'hui, ça commence à tomber légèrement dans l'oubli, aussi parce que la qualité de ces jeux-là est moyenne ou juste bonne, mais il n'y a rien d'exceptionnel, transcendant, qui font que les gens y accrochent, quoi.
Avant de finir de finir l'émission, un petit mot peut-être, Christian Châtelier, sur le master. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend ? Est-ce que je sors du master et ça y est, je sais me fabriquer la dernière montre connectée de Xiaomi ?
Enfin, vous avez bien compris comment elle fonctionne, en tout cas. La fabriquer, ça n'a pas tellement de sens aujourd'hui. La concevoir, oui, sans problème. Qu'est-ce qu'on y apprend, en fait, pour essayer de recentrer un peu les choses par rapport à tout ce qui a été dit ici. Ce qu'on essaye de faire à travers ce master, qui est complètement connecté à nos activités de recherche, c'est aussi de comprendre en quoi un objet connecté peut répondre à un enjeu ou à un défi sociétal. Alors, par exemple, je prends l'enjeu du vieillissement de la population ou du maintien des personnes à domicile. En quoi un objet connecté peut, dans une démarche vraiment d'innovation, contribuer, par exemple, au maintien des personnes à domicile ? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire des capteurs qui soient très très fiables pour détecter les signes avant-coureurs d'un AVC ? Alors sur la santé, sur l'usine du futur, il y a des enjeux sociétaux. Et notre démarche, elle est plus de comprendre finalement quels sont les éléments constituants d'un objet connecté. D'accord ? Et ensuite, non pas en fabriquer dans une démarche consumer, d'accord, mais de l'associer à une problématique d'enjeu sociétal. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à l'origine, dans ce master, il y a un parcours, d'abord, pourquoi je parle d'un imparfait, qui s'appelle sport et santé connectée. C'est-à-dire comprendre les enjeux, justement, de la santé, des problématiques de droit, des problématiques d'hommes augmentés, et en même temps des problématiques technologiques. Donc faire, comme ça, de l'interdisciplinarité. D'accord ? Et on a un parcours qui est très technologique et scientifique autour de trois mots-clés. Comment je fais pour capter, comment je fais pour transmettre et comment je fais pour analyser. Donc électronique embarquée, télécom, réseau et intelligence artificielle.
Très bien.
Voilà. Mais il faut le voir comme quelque chose autour d'enjeux sociétaux. Voilà,
très bien.
C'est ça notre...
Eh bien, on a pris un peu plus de temps que prévu, alors on va sauter l'agenda et on va passer directement à la fin de la mission. Tu peux envoyer le bed, Hugo.
Envoie le
bed. Ah bah tu n'étais pas prêt.
Ah là 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 là. C'est même pas de ma faute cette fois.
Désolé.
Alors du coup, donc pas d'agenda, mais un petit mot pour Lucas qui nous a quitté, ou plutôt a quitté l'émission. Pour un calendrier universitaire un peu changeant, mais la semaine prochaine on accueille une nouvelle chroniqueuse, Hildegard, qu'on salue déjà si tu nous écoutes. Je le redis, mais Christian Châtelier, merci d'être venu pour parler objets connectés avec nous.
Merci beaucoup en tout cas de votre accueil.
Et on va se quitter sur le morceau L'Indien de Juliette Armanet. À la semaine prochaine.
Salut.
Salut. Au revoir.
J'en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps. C'est lui, l'amour de ma vie. Je sais que c'est lui, tout me le dit. En lui, le jour comme la nuit. Je suis à lui. Flèche, une aurore dans mon décor. Casque d'or au cuir sonore. Drôle de bête, un indien dans ma fête. Flèche, pas farouche, foule bouche à bouche. Du genre pas de touche, du genre qu'une sale cartouche. Drôle de type, un indien dans mon tri.
Si tu veux surfer sur Internet, suis-moi, on va t'équiper.